Scribens O, Scribens A.
Cette émission se propose d'explorer les mystères de la création littéraire et poétique. Brigitte Bramy, grande experte de Jean Genet, qui a connu de près l'univers carcéral, autrice de « Surtout ne pas nuire »,« Corps imaginaires »,« Miracle de Jean Genet », »,« La prison ruinée »,« Lune verte », a accepté de nous parler de son dernier livre. Alors bonjour Brigitte Bramy, merci de m'offrir cette interview au sujet de ce magnifique roman « Car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire », sous-titré « Carnet de cavale, 18 octobre 2009, 8 mars 2010 ». Et tout d'abord ce titre qui est tiré, en tout cas, qui nous vient de la Boétie, si je ne m'abuse. Pourquoi ce titre ?
Alors, bonjour Marie, c'est moi qui te remercie de m'inviter, de me convier dans ton émission. Et donc, c'est « Car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire ». Donc, c'est pas un roman, en fait. Ce sont des carnets de cavale, même si je ne sais pas si ça existe comme genre. Et j'avais peur que tu dises les anciennes éditions. En fait, c'est aux éditions Unicité, U-N-I-C-I-T-E. Donc, qui a un site internet et dans n'importe quelle librairie, on peut l'avoir sur commande. Pourquoi « Car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire » c'est très simple. Lors de ma première incarcération en 2008, je suis incarcérée vraiment, je ne m'y attendais pas du tout, personne ne s'y attendait. Et j'avais des relations extrêmement serrées, notamment téléphoniques, avec une amie à moi, médecin d'ailleurs, médecin radiologue. Et on en parlait beaucoup, on restait des heures au téléphone pendant des semaines et des semaines avant mon incarcération. Et elle connaissait toute l'histoire, elle avait très peur que je sois incarcérée et... Quand elle a appris que j'étais enfin incarcérée, j'allais dire, elle m'a envoyé une carte postale avec au dos de cette carte postale cette phrase d'Étienne de la Boétie, « Car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire ». Et derrière, elle a signé. Et en fait, c'était d'une beauté absolue. Elle ne savait pas quoi me dire d'autre. J'en ai la chair de poule là, quand j'en parle. Et en fait, cette phrase représente la première... entrer dans ma cellule d'une amie à moi, des premiers mots qu'on puisse me dire devant cet état de choc représenté mon incarcération. Et je me suis dit, mais elle a tout compris. Je suis là parce que le feu me brûle, mais le feu m'éclaire aussi. Et devant tant d'intelligence, alors qu'elle était restée sans voix devant la nouvelle, eh bien, cette phrase de la Boétie m'a vraiment poursuivie. Et beaucoup plus tard, alors que ce livre ne raconte pas du tout ma première incarcération, un autre le raconte, c'est la prison ruinée, eh bien, beaucoup plus tard, j'ai utilisé ce titre parce que je me suis dit qu'il représentait absolument, disons, le mouvement et l'énergie qui me muait dans toute cette histoire-là.
Et avant même de commencer le récit, tu dis que tu es animée par ton innocence ontologique. Qu'entends-tu par là ?
Alors, tu poses vraiment des très bonnes questions et je vais faire après un lien avec un film que j'ai vu récemment sur le procès Goldman. Et c'est hallucinant parce que Goldman, je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire, mais il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il est en première instance, il est condamné. Après, en appel, il est relaxé pour ce meurtre-là. Et après, il va être assassiné. Et il dit à son avocat. Alors, c'est très curieux parce que moi, l'avocat de Goldman, ça a été l'avocat, ça a été Kiegeman. On sait très bien que les artistes et les intellectuels, les révolutionnaires, les rockers français. Les plus brillants, les plus révoltés, 30 ou 40 ans après, la France arrive à en faire des vieux cons. Voilà. Donc ça, c'est, à part Jean Genet, c'est malheureusement l'histoire de tous les têtes brillantes françaises, les grands intellectuels, les grands révoltés, etc. Kejmann, malheureusement, a subi le même sort, puisque ça a été une espèce d'ordure avec la partie civile contre moi. Il a été abject. Et dans le film, il défend Goldman et Goldman lui dit « Mais je suis innocent de façon ontologique ». Eh bien oui, moi j'ai beaucoup... Alors, ça fait partie d'un... Je ne sais pas où tu as trouvé ça. Oui, dans ce livre, parce que ça fait partie aussi du livre « La prison ruinée », où là, c'est vraiment martelé, c'est mis en exergue. Et vraiment, j'ai compris la signification de cette phrase, peut-être... Disons, on va dire 10 ans, une bonne dizaine d'années après l'avoir écrite. Quand je l'ai écrite, pour moi, c'était une phrase poétique et en même temps existentielle. C'était de l'ordre de l'existence, c'est-à-dire que de l'ordre de la pureté de quelqu'un qui peut commettre n'importe quoi et qui reste pur, que finalement tout ce qu'il commet... c'est conjoncturel, mais qu'il reste quand même pur à l'intérieur et qu'il y a des êtres qui sont sales et qui peuvent faire montre de beaucoup de générosité, de pureté, etc., mais qui sont vraiment crades. Donc moi, quand je l'ai écrit, c'était pas genre « je n'ai rien fait », donc ça, c'est très important. C'était pas « je plaide non coupable », c'était pas ça l'important. C'est tout ce que je ferai, c'est pas grave, mais je suis dans une innocence ontologique parce que mon être est comme ça et vous n'y pourrez rien. Vous n'y pourrez rien changer malgré toutes vos accusations, malgré tous vos verdicts, malgré tous vos emprisonnements, vous n'y pourrez rien. Et malgré moi-même, ce que je peux commettre. Voilà. Et 10 ans plus tard, j'ai compris d'où ça venait, pourquoi j'avais écrit ça. Et c'est pour ça que tu vas voir pourquoi je te dis que tu poses une très bonne question. Je me suis rendu compte que l'innocence ontologique dont je me proclamais était une réponse inconsciente, involontaire, à la culpabilité ontologique dans laquelle ma famille m'avait mise. C'est parce que je suis née coupable que ma famille m'a mis au rang de coupable que j'ai a contrario, que j'ai créé l'innocence ontologique poétique. Et ça, je l'ai compris 10 ans après. Et à un moment donné, quand j'ai beaucoup réfléchi par rapport à pas mal de deuils, à quelque chose que j'ai dû renaître, sinon j'allais mourir, et je me suis dit, mais je suis née coupable. Ma famille m'a vraiment... c'est l'État qui m'a incarcérée, ce sont les tribunaux, ce sont des plaignants qui sont allés porter plainte, mais c'est ma famille qui m'a mis à la place de coupable. Et quand je me suis rendu compte que effectivement j'étais née coupable, je me suis dit effectivement, ça me paraît très logique qu'après je devienne innocente de façon ontologique, grâce au miracle de la poésie, que je renverse complètement ça. Que je ne suis pas un petit peu coupable et un peu innocente, ça n'aurait pas marché du tout.
Mais je ne sais pas si c'est important ou pas, mais de quoi t'accusait-on exactement ?
Alors, en fait, au début, quand j'ai fait des rencontres littéraires autour de mes livres, je me souviens que chaque fois que je disais de quoi on m'accusait, c'était tout bénef pour moi, c'était vraiment du velours. Et finalement, vers la fin des rencontres ou vers la fin des interviews, on parlait de l'énorme injustice qui s'était abattue sur moi et on me plaignait. Et après, je me suis dit, je ne veux pas le dire. Non pas parce que ça m'accablerait, au contraire, ça me dédouanerait, mais parce que le dire, ça veut dire porter la parole du juge. Le juge sait pourquoi il m'a incarcérée. Moi, je ne le sais pas. Moi, j'ai été incarcérée. Mais je ne suis pas d'accord avec la parole du juge. Donc je ne vois pas pourquoi je la porterai. J'ai écrit un livre à la place de ça. Donc pour moi, parlons du livre, parlons des livres et parlons de la poésie. Mais si tu veux, c'est très très important parce que les gens se trouvent comme dans des jurés de dans des jurés comme dans des voilà comme dans des assises ou des un tribunal correctionnel n'a pas de juré. Mais en tout cas, ils aiment bien eux aussi dire leur dire comme dirait Paul Celan et dire est-ce qu'elle a mérité Brigitte Bramy ou pas son incarcération. Mais c'est pas mon problème. Encore une fois, le verdict qui étymologiquement veut dire dire vrai, là en l'occurrence ça a dit faux quoi. Ça a dit une vérité mais qui n'est pas la mienne. C'est la parole du juge, c'est la responsabilité du juge. Moi, j'écris un livre. Lui, il n'a pas écrit un livre. Lui, il a demandé à ce que des gardes me passent les menottes. Moi, je suis très contente d'avoir écrit un livre plutôt que d'avoir fait mettre des menottes à quelqu'un.
Et justement, cet ouvrage, Car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire, on peut dire que c'est une autofiction, on est d'accord.
Tout à fait.
Et je reprendrai un extrait de ton ouvrage. Les films regardés et les livres étaient l'appui intangible sur lequel désormais je me tiendrai. J'interrogerai la fiction, c'est elle qui précède, inspire et rend possible le réel. La fiction ne dépasse jamais la réalité, elle permet d'exister. La réalité imite la fiction.
Complètement. Ah mais complètement. Si, merci parce que c'est très judicieux hein, ce que tu as relevé. Effectivement, c'est très important dans le livre, ce passage-là. Et ce passage-là, comme par hasard, je ne sais pas si tu t'en souviens, il fait une transitionnelle en fait entre deux états. Je dirais que la première partie du livre est en noir et blanc. C'est un flux qui n'est pas du tout naturaliste. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité, de la gravité, de la lenteur même. La protagoniste principale, c'est-à-dire moi, en tout cas, je ne sais pas, elle s'appelle Brigitte Bramy, est-ce que c'est moi ? Je ne sais pas. Se trouve tranquillement chez elle, peut-être en lisant un livre de Jean Genet. Elle est dans une intériorité confortable, elle n'est pas du tout inquiétée par des problèmes judiciaires, etc. Et là, il y a deux flics qui arrivent et qui font rentrer la violence, en fait. C'est pour montrer aussi que quand tout est calme, les flics ne viennent pas pour que la paix advienne, mais ils viennent foutre le bordel, quoi, aussi. Parce que tout va bien, quoi, quand ils arrivent. Bon. Et donc, ils sont... c'est eux qui sèment un peu le conflit, la violence, et je voulais dire ça aussi, tu vois, dans un environnement qui est très calme, qui est très agréable, où il n'y a absolument aucune violence, où on est vraiment dans l'intériorité, dans la littérature, et même l'immeuble, il est très très calme, il est très agréable, et c'est eux qui viennent produire du conflit. Et après, effectivement, elle sait qu'elle est recherchée par la police, et là, elle décide de... Elle ne sait pas où aller et elle décide de chercher les anciennes filles qu'elle a connues à Fleury-Mérogis, dont une femme où il y a eu quelque chose de l'ordre amoureux, mais qui n'a pas été abouti parce qu'elles étaient incarcérées. Mais ça a été sa protectrice. Et il y a eu quelque chose un peu, qui aurait vraiment pu être abouti, mais qui ne l'a pas été, comme souvent dans la vie d'ailleurs. En tout cas, pour moi, c'est très, très souvent. Et... elle va la retrouver, mais pour se cacher, quoi. Pour se cacher, pour partir en cavale. Mais elle va retrouver cette femme, comme par hasard. Et c'est ce qui est très heureux, c'est qu'une histoire d'amour va naître. Mais ces phrases-là que tu dis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à un moment donné qu'elle était dépourvue de toute matérialité. Elle était dénuée de ce qui allait la protéger. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'argent, sa famille était malveillante, les avocats allaient lui dire, et ils le l'ont dit, d'aller se livrer. Ses amis petits bourgeois ne l'allaient pas l'accueillir. Et elle s'est dit, je vais penser à Jean Genet, à la littérature de Jean Genet, qui va m'aider. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Je vais penser à des films. Il y a un film auquel, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si tu l'as vu, qui est sublime, qui m'a beaucoup inspirée dans ma cavale. C'est « Superdu dans Manhattan ». Ah, c'est un film magnifique, en noir et blanc, et il est d'une beauté absolue. Et c'est l'histoire d'une fille qui n'est pas du tout en cavale, mais qui est perdue, qui est perdue. Et c'est très, très, très beau. C'est, ça raconte un peu les personnes qu'elle rencontre. Et c'est ça qui me muait. Et si tu veux, je ne pouvais pas m'arrêter à la réalité. Je t'en ai évoqué quelques bribes à l'instant, c'est-à-dire... On va refuser de me cacher, je vais payer l'hôtel, la famille va dire mais non, débrouille-toi, l'avocat va dire va te livrer, etc. C'est pas avec ça que j'allais constituer mon quotidien. C'est vraiment avec la fiction. Et je pense que la réalité n'est possible que si on songe à la fiction.
Oui, donc pour clore sur cette thématique de l'autofiction.
Oui, alors très sincèrement, moi je dirais que ce qui est absolument certain, c'est que tout ce qu'il y a dans le livre est vrai. Même et surtout des détails. La scène avec l'avocat, l'histoire des cacahuètes, c'est à 100% vrai. Toutes les femmes décrites et tout ce qui arrive, c'est à 100% vrai. Elles existent. J'ai gardé le prénom. À part de Diamant, elle ne s'appelle pas Diamant, elle s'appelle Perliva dans la réalité.
Gustave et Patate, rien que les noms, on peut se demander si tu ne leur donnes pas une certaine... humanité, et avec la toute fin justement où ce flic connaît cet événement tragique, tu lui donnes de l'humanité.
Oui. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les flics, c'est tellement des gens incompréhensibles. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup aux flics. Moi, je parle beaucoup aux flics qui viennent m'arrêter, m'interpeller. Je leur demande qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils deviennent flics, est-ce que c'est des problèmes d'argent, etc. Donc j'apprends que c'est des personnes qui ont divorcé, que c'est des personnes qui croient beaucoup au bien ou au mal, qui croient que si les gens respectaient les règles, on serait dans un monde merveilleux, etc. Et ça m'a rappelé d'ailleurs une très belle phrase, alors je la cite de mémoire, hein. Et que j'ai citée à un de mes avocats et qui, ça m'a beaucoup plu. C'est de Jean Genet dans Le Balcon, donc je cite des mémoires, pardon. C'est un juge qui dit à une voleuse. Donc moi, je n'ai pas été arrêtée pour acte de vol, hein, je vous le dis tout de suite, voilà, c'est même pas ça, quoi. Et un juge qui dit, pour donner un peu une leçon de morale, pour essayer d'être pédagogique, et qui dit à une voleuse, qui dit à la voleuse, mais vous rendez compte, s'il n'y avait pas de juge. Mais dans quel monde serions-nous ? Et elle, très subtile, elle répond, « Et monsieur le juge, et s'il n'y avait pas de voleur, dans quel monde serions-nous ? »
Donc, nous avons évoqué Gustave, Patate, qui sont les deux protagonistes, finalement, qu'on rencontre très rapidement.
C'est Dupont et Dupont, hein.
Mais également ton voisin, le vieux. À qui tu donnes, à la toute fin du bouquin, une énorme humanité et que tu salues pour cette forme de bravoure.
Mais parce que c'est un type, j'ai la chair de poule quand tu m'en parles, extrêmement humain, que je l'ai connu. Ma chienne a mordu sa femme, je vais vous faire un bouquet de fleurs. Donc il me connaissait vraiment, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est un homme qui ne sait pas pourquoi il a vieilli. En fait, c'est un homme qui a fait mes 68, qui est un éminent... professeur de faculté à Jussieu, donc c'est un grand scientifique, qui a fait mes 68 et qui en ressort très déçu. C'est-à-dire qu'il se dit que finalement, le monde n'a pas changé grâce à lui et qu'il a été plus militaire que militant, qu'il s'est amusé, c'est peut-être pas dit dans le livre, mais que finalement, c'était des petits bourgeois qui s'amusaient comme ça, qui faisaient leur crise d'adolescence. Et en fait, il a gardé pendant, il a plus de 70 ans, il a gardé pendant 50 ans mort aux vaches. Il ne sait plus à qui le dire, cet homme, mort aux vaches. Il n'y a plus besoin de dire mort aux vaches, ou si on le dit, ce n'est pas grave. Enfin, voilà, ça n'a plus de sens. Toutes les questions qui s'est posées, enfin, l'alternative, la grande question qui s'est posée pendant sa jeunesse, ce qui ne l'a pas empêché de faire des très hautes études, d'être très brillant, d'être professeur en titre à Jussieu. Donc, Et il revoit comme ça son père, il revoit son père contre lequel il se battait, il revoit son père lui faire des grimaces en disant bah, « tu es devenu comme moi ». Voilà. Il a épousé une femme institutrice qui a un cancer, il a très mal, il a de l'arthrose, enfin il se réfugie, les seuls moments qu'il a de bien-être, de repos, c'est il va aux toilettes, il reste très longtemps aux toilettes. Et, voilà. Et à un moment donné... Donc la question qui se posait pendant les années 68, c'est est-ce qu'il faut renverser la table ou il faut croire aux réformes, être réformiste, etc. Et en fait, l'occasion que lui donnent ces deux petites flics pathétiques, un peu obèses, un peu vieillies, enfin, représentant la lie de la société, la cendre de joie, un côté mortifère, un côté qu'ils n'en ont rien à faire, qu'ils pensent que simplement, est-ce qu'il y aura un café à côté pour se bourrer la gueule, quoi. C'est ça leur idéal, ces deux flics, les pauvres. Et donc, ce qu'il y a, c'est que quand ils croisent ces deux flics et que ces deux flics lui montrent ma photo, il y a l'enseigne des flics, la carte RF, et donc il y a l'insigne comme ça, et à côté de ça il y a la photo, et il doit tout de suite choisir de quel camp, parce que le flic il lui montre comme ça, il lui montre d'une main il lui montre sa carte de police nationale, et de l'autre main il montre ma photo, et lui, donc c'est vraiment un choix, et tout de suite il choisit d'être avec moi, évidemment, mais il sait pas qu'en me choisissant il a pas du tout été courageux ni rien, mais il a vraiment saisi ce qui pourrait le sauver. C'est-à-dire ce qui pourrait le sauver. Pourquoi ? Parce que il est enfin en adéquation avec ce qu'il a porté pendant toute sa jeunesse. Il retrouve sa jeunesse et là, il va aller de mieux en mieux. Il va vraiment recouvrer sa jeunesse et ça va lui faire un bien fou. Donc, dans cette histoire-là, il n'y a pas que moi, mon destin, mais il y a aussi des personnages qui grandissent aussi grâce à moi.
On croise énormément donc Sonia, dont on va parler, qui joue un rôle extrêmement important, Diamant, Billy, Héloïse,
oui.
Nacera,
ah, oui,
ton médecin, ton avocat, une psychanalyste, mais avant tout...
Un psychanalyste. Mon médecin, le médecin et le psychanalyste, c'est le même.
Hein. Ah d'accord. Donc, Sonia, une grande histoire d'amour.
Très, très belle histoire d'amour. Alors, j'ai la chair de poule. Comme les plus belles histoires d'amour, c'est quelque chose qui n'est pas gnangnan du tout. Ce qui s'est passé, c'est que je me disais, dans ce mouvement-là, si on voit 5 mois de cavale, en fait, il y a les flics qui me recherchent et moi qui recherche Sonia. Donc, ce mouvement-là, il existe. Donc les flics, et ils ont toujours un temps de retard, les flics. Et moi qui recherche Sonia, parce que Sonia est quelqu'un de volatile. Sonia est une très grande toxicomane, une craqueuse. Elle fume le crack, etc. Et on va dans des hôtels crasseux. Enfin, je veux dire, la cellule d'une prison, c'est un hôtel 5 étoiles par rapport aux hôtels crasseux où il y a dans la douche un truc pour attraper les rats, quoi, tu vois, à l'intérieur. Enfin, c'est sordide. En plus, ces hôtels qui ferment à un moment donné à clé, c'est-à-dire que si tu rentres pas à 1h, 2h du matin, tu dois revenir à 6h30. Voilà. Mais des conditions d'insécurité, des viols dans les étages de l'hôtel. On ne sait plus si on doit avoir peur des voyous ou des flics, quoi. Ça a toujours été ça, hein, moi. Hein. Je me demandais, là, s'il fallait tracer comme ça une voie. Et Sonia, amour fou, quoi. Amour fou. Mais en attendant, comme il faut passer le temps, et comme quelque part, c'est les grandes vacances pour moi, c'est-à-dire que je sais qu'à un moment donné, il faut que je prenne mon mal en patience et attendre l'appel, la date de l'appel, qui aura lieu le 8 mars. Donc, entre octobre et mars, je sais qu'il faut que je prenne mon mal à la patience et je décide de jouir de cette situation-là. Je décide de ne pas m'en inquiéter, je décide d'écrire, je décide de vivre avec Sonia et de rencontrer les autres meufs, c'est-à-dire les autres putes. C'est-à-dire les collègues de travail de Sonia. Et visiter ces quartiers-là, les quartiers, là, on en parle beaucoup actuellement, la colline du Crac, Porte de la Chapelle, Stalingrad, dans le 19e, tu sais, ou pas, t'entends, ou pas. Voilà, bah, c'est ce milieu-là dans lequel j'évoluais. Donc des toxicos, mais complètement, le crack, c'est un truc de fou. Quoi. Et c'est quelque chose qui te détruit les neurones, qui est très violent. C'est-à-dire que les gens peuvent tuer, les gens peuvent faire des choses incroyables sous crack. Et cette histoire d'amour avec cette craqueuse, qui est une force de la nature, qui est quelqu'un qui fume beaucoup de crack, mais qui est très très vivante, qui a un instinct de vie incroyable, qui est quelqu'un qui va tous les jours, elle est méconnaissable, un jour elle va avoir les cheveux jaunes, un jour après on va la voir avec une perruque, enfin elle est méconnaissable, et c'est vraiment la métamorphose perpétuelle comme Genet, quoi. La métamorphose, dans les protagonistes, chez les protagonistes genétiens, il y a ça que tu les reconnais pas, quoi. Donc c'est vraiment une performeuse du quotidien. Et c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire, quoi. Enfin, c'est un vrai personnage.
Tu disais que, si j'ai bien compris, on peut revenir dessus et tu peux reprendre, m'éclaircir. Tu leur as apporté quelque chose à tous ces personnages. Eux t'ont nourri, t'ont forgé une personnalité.
Alors, ce qui est clair, c'est que j'ai apporté aux bourgeois. Ça, c'est clair. C'est-à-dire aux profs de fac, je leur ai apporté, aux flics, je leur ai certainement apporté, à mes avocats, je leur ai apporté, aux psychanalystes. Alors maintenant, aux toxicos, putes, etc., je ne sais pas ce que je leur ai apporté, hein, très sincèrement. J'en sais rien. J'ai apporté du désordre aux bourgeois, mais je n'ai pas apporté de l'ordre à ces personnes qui étaient déjà dans le désordre. Je crois que j'ai apporté un petit peu de désordre aussi.
Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Quelles valeurs elles ont pu véhiculer? Est-ce qu'elles ont permis de libérer quelque chose en toi? Est-ce qu'elles ont forgé une partie de ta personnalité? Tu en es sortie différente au bout de cette cavale?
Oui, j'en suis sortie différente parce que moi, j'étais avec des personnages de Jean Genet, quoi. Voilà. J'étais dans les livres de Jean Genet. Mais j'étais pas... il faut faire attention à ne pas se méprendre quand je dis ça. C'est-à-dire que j'étais pas une touriste, moi. J'étais vraiment quelqu'un qui a failli plusieurs fois me faire tuer, vraiment. C'est-à-dire que ça a été moins une qui a été piégée dans un parking avec un couteau sous la gorge. On a voulu me défoncer avec une fourchette dans un taxi. C'était pas tous les jours. Voilà, c'était... Et justement, moi, ce qu'elles m'ont apporté, ces femmes-là, c'est d'avoir une sensualité qui est réelle, enfin, qui est vraiment vécue, etc., aboutie. Le fait aussi de l'instinct de vie qui est énorme. Donc ça, c'est extraordinaire. Et puis le fait que j'ai vraiment été derrière le miroir. Ça m'a appris que finalement le monde, en tout cas la société telle qu'elle est, qu'elle a été architecturée, repose sur vraiment, c'est peu de le dire, hein, parce que ça semble banal, mais quand un petit bourgeois te dit ça, il le dit avec sa pensée, tandis que moi je le dis avec mon sang. Et que le fait que, mais vraiment, tout est faux semblant, c'est-à-dire que moi je sais pas comment je peux avoir encore peur des flics et des juges après ce que j'ai vécu. Et c'est plutôt eux qui devraient avoir peur de ce monde-là, quoi. Enfin, et de ce que j'ai vécu, ils devraient eux avoir peur de moi et avoir peur que je les enferme dans mon monde et non pas eux qui m'enferment dans le leur, parce que bon. Et donc c'est vrai que j'ai vu que tout ça, c'était vraiment une rigolade, quoi. C'est-à-dire, leur truc, c'était n'importe quoi. Vraiment, moi, quand je dis c'est une bouffonnerie, la justice, c'est vraiment réel, hein. Ça tient pas la route. Ça vaut rien. Ça, quand tu parles de valeur, mais il n'y a aucune valeur, hein, derrière un jugement. Il y a des caractères typographiques, et comme moi je dis, il y a des juges, des petits juges. Je ne sais plus qui c'est qui a dit. Un juge, finalement, c'est un mec pas très courageux qui pèse 60 kilos, quoi, et qui est là avec des codes pénaux, des caractères typographiques privés du roi du roi qui peut aussi, qui peut dire voilà, c'est comme ça. Quand on a des sociétés qui sont dirigées par un roi, ça au moins, il y a du panache. C'est-à-dire, un roi qui dit c'est comme ça, etc. Bon, je l'ordonne. Qui donc privé de roi et de dieu. Donc, ils jugent sans rien dans les mains. Ils jugent avec, en obéissant à des caractères typographiques. Donc, avec quelque chose de très, très, très aléatoire, de pas du tout universel et de pas solide. De pas ancré comme ça dans la réalité des gens, d'accord ? Donc c'est pour ça que ça n'a pas tellement de sens.
Tu es souvent, c'est ce que j'ai pu lire à la toute fin du roman quand tu es présenté, que tu es souvent interrogé par les journalistes sur l'univers carcéral. Est-ce que ça comprend aussi la justice ? Tu es interrogé à ce titre ou uniquement l'univers carcéral et qu'est-ce que tu en dis ?
Moi, des fois, quand je faisais des rencontres, là, un peu moins maintenant, parce que c'est surtout quand est sorti La Prison Ruinée, maintenant, il est, même moi, j'ai plus d'exemplaires, il a été vendu à entre 200 et 2000 euros hein, sur Amazon en occasion, et c'est un livre qui a été vendu à 5000 exemplaires en 5 mois, c'est-à-dire 1000 par mois, dans les éditions prestigieuses qui ont édité Stéphanie Sen, Indignez-vous. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de rencontres un peu partout en France, etc. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Corps imaginaires sur le portrait de deux détenus » et j'ai fait un peu toute la France avec un mouvement qui n'existe malheureusement plus qui s'appelait le Génépi. Et c'est vrai que dans les colloques, dans les rencontres, dans les salles, tu as beaucoup de SPIP, c'est-à-dire des assistants sociales qui sont dans les prisons, tu as beaucoup de travailleurs sociaux, etc., qui me posaient pas mal de questions. Tu as des journalistes et tout, et tu as des associations avec lesquelles j'ai plus ou moins d'affinité. Moi, ce que je supporte pas, c'est les associations qui sont de la pure idéologie et qui vont pas avoir un peu un discours de travers. Ils vont pas avoir une approche littéraire des choses que l'on peut vivre, parce qu'on peut vivre des choses merveilleuses en prison. Et je suis là pour le dire. Et dans la cavale aussi, on peut vivre des choses extraordinaires. C'est beaucoup plus dangereux une cavale que la prison. C'est extrêmement dangereux, une cavale très 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 dangereux, mais disons que effectivement oui, on m'interroge de façon régulière là, dans la Provence. Il y avait une journaliste en première année d'école de journaliste qui a fait un article sur moi parce que moi je souffre d'une maladie génétique rare depuis l'âge de mes 4 ans. Je suis en traitement depuis plus de 45 ans. Et effectivement, pour ne parler que de la Provence, elle avait fait un article sur moi. J'ai eu une demi-page dans le journal La Marseillaise aussi, sur justement Brigitte Bramy dans les pas de Jean Genet, avec, en parlant un peu de mon incarcération, mais également de Jean Genet. Et puis, oui, il y a souvent des articles ici et là, oui, dans le Passe-Muraille aussi, enfin voilà.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le fil directeur entre tes romans, ou pas du tout, je me trompe ?
Qu'est-ce qui est le fil ?
L'univers carcéral, pour partie.
Merci. Alors, moi j'écris depuis que j'ai l'âge de 7 ans, et à partir du moment où j'ai été emprisonnée, assez tard dans ma vie, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout de suite voulu m'éditer, me publier. J'ai passé 44 ans à essuyer des refus des éditeurs. Et à partir du moment où je racontais que ça venait d'une détenue, d'une femme qui avait fait de la prison, qui sortait de Fleury-Mérogis, etc., avec mon parcours particulier, effectivement, là, j'ai pu acquérir de la crédibilité. Donc c'est la société qui veut ça, c'est pas moi. Moi j'ai toujours été la même, d'accord. J'ai toujours été écrit de la même façon. Et alors c'est pas si quelqu'un par exemple décidait d'être connu en écrivant sur la prison, ça marcherait pas. C'est parce que moi je suis, parce que j'étais dedans quoi, parce que j'étais une vraie prisonnière qui a vraiment, et que c'est très rare que ça arrive à 3,5% des femmes. Donc oui, on peut dire que moi quand on me demande qu'est-ce que j'écris sur quoi ? Moi, je dis, j'écris sur des problématiques carcérales et aussi un livre sur Jean Genet. C'est ce que je réponds, oui, oui.
Le carnet de cabale, comme c'est écrit sur le roman, c'est carnet de cabale du 18 octobre 2009 au 8 mars 2010. Là, tu écris durant ce laps de temps.
C'est une super bonne question que tu me poses, parce que là, c'est super intéressant. Merci pour tes questions. Alors, c'est fou, parce que comme tu as dû le... Si tu t'en souviens... Est-ce que tu te rappelles que dès que j'ai quitté Sonia, Parce qu'on n'est pas comme chez les bourgeois, c'est-à-dire, si tu veux, avec Sonia, on avait vraiment l'hyperconscience qu'on ne, on pouvait ne plus jamais se revoir. Quand on disait au revoir le matin, on se disait peut-être qu'on ne va plus jamais se revoir, peut-être qu'on va mourir, peut-être qu'on va être incarcéré, peut-être qu'il va arriver des choses atroces. Je ne sais pas si tu l'as lu quand on se serre dans les bras et tout. C'était... Et ça, c'est magnifique, si tu veux. Bon. Et la vie comme ça, vivre une histoire d'amour comme ça, c'est vraiment grandiose, quoi. Et donc, après de l'avoir quitté, je vais dans les cafés, j'écris. Tout m'énerve, je suis hyper parano, j'ai peur de tout. Je vais dans des endroits en arrondissement à l'opposé. Je réserve 50 chambres d'hôtel avec... plusieurs téléphones, avec le téléphone dont je sais que les flics sont sur écoute, parce qu'ils ne sont pas très intelligents, hein, les flics. Hein, et... Non, mais je te dis, moi, j'étais très étonnée d'être encore en cavale, hein, parce que franchement, pendant ce temps-là, j'écrivais La prison ruinée, qui a été un livre qui a changé ma vie. La prison ruinée a changé ma vie, voilà. C'est là, La prison ruinée, ma sacrée écrivaine. J'avais publié un recueil de poésie à l'âge de 20 ans, mais là, ça a changé ma vie. Et alors, je n'écrivais pas car le feu. Alors voilà ce qui s'est passé. Donc en 2011, je fais publier La prison ruinée avec dans ma tête la certitude qu'il y aurait une suite. Voilà. Et il y avait le personnage de Diamant, dont tu ne m'as pas encore parlé. Il y avait Diamant, l'ancienne Miss Haïtienne, et qu'on peut voir dans Brigitte Bramy par Brigitte Si. J'avais le canevas de Car le feu qui me brûle, mais je voulais vraiment. Je savais que la prison ruinée, au niveau stylistique, au niveau tout, ça a été quelque chose d'énorme. J'ai eu pas mal de critiques très laudatives, et je voulais que ça garde la force, le style, etc. Donc, de 2011 à La prison ruinée, je l'ai écrit à peu près en 2009-2010. Je l'ai très vite édité. Ensuite, on va dire que de 2011, la date de la publication, à 2015, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire, mais ça ne donnait rien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, mon frère est mort. Que j'appelle Philippe Bramy, l'homme et la femme de ma vie. Et d'ailleurs, il lui est dédié. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis retombée avec la mort de mon frère dans un état d'extrême fragilité, un état de fin du monde absolue, un état où j'allais mourir, un état où j'étais perdue, j'étais comme... un pion dans le vaste monde, j'allais mourir, quoi, vraiment. Et j'étais dans un état de précarité matérielle, existentielle, absolue. Et alors là, je me suis retrouvée au niveau émotionnel dans l'état de cette cavale. C'était exactement dans le même état. Et c'est ainsi que j'ai pu écrire, c'est-à-dire en ne mentant pas. C'est-à-dire que le matériau affectif, émotionnel, il était vraiment exactement le même que quand j'étais en cavale. J'étais aussi perdue. Et donc j'en ai profité pour écrire la cavale avec de l'émotion qui était liée à la mort de mon frère.
On évoquait Diamant, tu avais envie de revenir sur elle, je t'écoute.
Alors peut-être j'ai eu de la chance, j'en sais rien, peut-être en 2008 j'ai eu de la chance aussi quand je raconte mon séjour en prison, c'était la belle vie, c'était... Je voulais pas qu'on me parle du dehors, hein, quand j'étais en prison, j'étais très bien moi. Hein. Bon, alors peut-être j'ai eu de la chance, peut-être je me suis raconté du cinéma aussi, peut-être que j'ai érotisé la prison, peut-être que c'est des défense aussi intérieure, peut-être j'ai retrouvé jeûné, j'en sais rien. Bon, en tout cas, la cavale, c'est je me promène boulevard Ney, là où exerçait Sonia, pour la trouver, puisque j'ai passé 5 mois à chercher Sonia, comme les flics ont passé 5 mois à me chercher. Et je tombe, je suis toujours dans un taxi, et je je sais que les filles vont rentrer dans le taxi. Voilà. Et je baisse juste la vie. Et je tombe sur une ancienne Miss haïtienne, quand même. Une ancienne Miss Haïti, quoi. Enfin, il se passe des choses incroyables, quand même. Hein. Et ça, c'est de la pure réalité. Voilà. Et on parle de... Elle me parle de Marguerite Duras. Et c'est sûr qu'à ces moments-là, j'avais vraiment pas envie de finir ma cavale, quoi. J'avais envie de continuer un petit peu, quand même. Qu'on me raconte encore des histoires, histoire de vivre ce genre d'histoire.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es amenée à écrire? Comment t'inspire le quotidien?
Alors, ce que je suis amenée à écrire, donc je suis en train d'écrire un polar, justement, donc de l'autre côté. Mais effectivement, tu as raison tout à l'heure quand tu as dit que tout est issu de... Je ne me verrais pas écrire un roman d'amour. Si les personnes ne sortent pas de prison, si les personnes... Voilà. La plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est d'être emprisonnée, évidemment. Ça, c'est une évidence pour moi. J'ai rencontré des êtres merveilleux et puis ça a bouleversé ma vie. Hein. Donc, je suis très heureuse. Je ne sais pas ce que je serais devenue si je n'avais pas été emprisonnée. Hein. Je crois que vraiment, ça n'aurait pas du tout été intéressant. Voilà.
Et pour vous donner un aperçu de ces carnets de cavale, je vous en lis un extrait intitulé « Encore amoureux de Sonia ». Elle se croit où ? À la porte de la chapelle ? Si je me suis réveillée tôt ce matin afin d'être à l'heure au palais de justice, ce n'est pas pour assister à ce genre de show. C'est Billy, évidemment, qui a arrangé le coup. Il m'a appelé la veille et m'a dit que Sonia avait été convoquée au greffe de la maison d'arrêt pour femmes, suite à une fiche qui a été retrouvée. Elle va être jugée pour un délit antérieur à sa condamnation. Je serai dans la salle d'audience. Tu peux venir si tu veux, a-t-il proposé. Sonia est beaucoup trop maquillée. C'est limite indécent. Et les juges n'aiment pas ça. Billy, assis à mes côtés, est émerveillé. Il n'y a rien, pourtant, à entendre puisque sa femme n'a pas ouvert la bouche. Elle s'est contentée de baisser les yeux et de faire profil bas, comme le conseillent sempiternellement les avocats. Si on les écoutait, il n'y aurait que des esclaves dont les audiences consisteraient à la négociation du raccourcissement de la longueur des chaînes. Quel cirque ces tribunaux! De temps à autre, Sonia relève la tête et regarde la cour avec des yeux énamourés. Quelle pute! Non, pardon, pas quelle pute, quelle salope! Elle laisse sans sourciller le président l'humilier. Pas de famille, pas de logement, pas d'avocat. Que voulez-vous que la justice fasse avec des gens comme vous? Aucune des garanties de représentation nécessaires. Ah, mais je vois que vous avez fait des efforts. Vous avez été condamné dans les années 90 pour des actes de trafic de stupéfiants. Dans les années 2000 pour prostitution. Et aujourd'hui, on ne vous reproche que des simples vols. Il faut espérer que bientôt, vous regagnez votre virginité pénale. Le président de la cour est content. Les assesseurs conquis. La peine est en train de baisser. Elle se réduit comme une peau de chagrin et glisse insensiblement dans le domaine du symbolique. Ce qui sera requis est une relaxe qui n'ose pas dire son nom. La petite bande toute souriante de magistrats est unanime. Il faut laisser tranquille Sonia. L'affaire est mise en délibéré. Je suis étonnée de cette générosité. Pas Billy qui me souffle. Tu vois Brigitte, je te l'ai dit, il suffit de se taire. Je n'écoute plus Billy. Je me suis déjà avancée vers le box des prévenus, derrière lequel Sonia se tient debout. Et je lui lance, en dépit des gardes qui tentent de me refouler avec un léger temps de retard. C'est terminé entre nous. T'es désormais avec Muriel. Ça semble te réussir. Eh bien, reste-y. Elle fait une mine
sincèrement affligée, dont je n'aurais pas imaginé capable. Billy est furieux. Ça ne se fait pas, pas ici. Il se calme très rapidement et il passe à une réflexion beaucoup plus importante dans l'échelle des valeurs des reprises de justice multirécidiviste. T'as remarqué son nouveau jogging tout blanc, tout neuf ? Il va bien, hein ? C'est moi qui le lui ai offert. Est-ce la blancheur immaculée de nos vêtements, notre air repenti, notre immobilité et notre silence qui décideront de notre sort? Je ne sais pas. Je me contente de suivre Billy et nous sortons ensemble du palais, dans le même état que la cour, encore amoureux de Sonia.
Billy, Sonia, Diamant, et toutes les figures qui peuplent Car le feu qui me brûle et celui qui m'éclaire, vous pouvez les retrouver dans le film Brigitte Brami par Brigitte Si sur YouTube. Petit réajustement concernant l'autofiction. Seul le drame qui se joue dans la vie d'un des policiers est pour partie fictionné. Par ailleurs, Brigitte Brami anime des ateliers d'écriture. Vous pouvez la contacter au 06 49 35 99 78 ou lui écrire à l'adresse suivante brigittebrami@yahoo.fr. Vous pouvez commander Car le feu qui me brûle est celui qui m'éclaire dans toutes les librairies. Pour clore cette émission, un grand merci à Brigitte Brami, Patrick Thubault pour ses propositions musicales et Radio Galère.